Les matins de France Culture.
Bonjour Camille Magnard, votre vue de presse internationale commence avec la Catalogne. Plus personne ne comprend aujourd'hui ce qu'il y a dans la tête de Carlos Puigdemont.
Oui, il faut dire qu'hier, le président de la Généralité de Catalogne a encore réussi à perdre tout le monde dans ses tergiversations et finalement dans sa capacité à ne rien décider. À en croire Marius Carol, qui signe l'éditorial de La Vanguardia à Barcelone, en se réveillant hier matin, Puigdemont était déterminé à accepter des élections anticipées pour la Catalogne, éviter en cela que le Sénat à Madrid ne proclame l'article 155 de la Constitution, lequel va ôter son autonomie à la région séparatiste ce matin. Mais le soir, il a fait tout le contraire. Il a refusé les élections et renoncé pour autant à déclarer une bonne fois pour toutes l'indépendance catalane. Personne n'y comprend plus rien, résume donc Marius Carol, à commencer par le leader basque Iñigo Urkullu qui avait été appelé comme médiateur à Barcelone. Il a vu ses efforts mis à sac hier en quelques paroles de Puigdemont et il regrette aujourd'hui que la cause indépendantiste catalane apparaisse comme une cause perdue à tous les médias étrangers qu'il avait considérés avec sympathie plutôt il y a 3 semaines. Et c'est vrai que la presse étrangère commence à perdre patience. The Atlantic à Washington déplore à nouveau la confusion générale qui règne à Barcelone. Au Kenya, qui a pourtant d'autres chats à fouetter en pleine crise présidentielle, The Daily Nation s'attarde sur l'incertitude catalane quand, à Moscou, l'agence Sputnik glose sur les hésitations de Puigdemont. Mais c'est toujours à Madrid que l'on a les mots les plus durs. L'éditorial d'El Mundo ce matin nous explique que le président de la Généralité emmène la Catalogne au désastre en refusant la dernière main tendue par Mariano Rajoy. Carles Puigdemont, qui va devoir accepter qu'il vit ses derniers instants à la tête de sa région, clame El Mundo. Et le quotidien de la droite espagnole, ABC, va plus loin. La priorité à présent, selon lui, c'est de destituer Puigdemont. Dans la foulée du déclenchement ce matin par le Sénat à Madrid de l'article 155 et donc de la mise sous tutelle de la Catalogne. Dans les colonnes d'El País, enfin, on lira cette tribune du journaliste et politologue Ignacio Martín Blanco. En voyant leur autonomie politique suspendue pour au moins 6 mois, peut-être les Catalans vont-ils comprendre ce qu'ils ont à perdre, à en demander plus. Et ils voudront peut-être, ces Catalans, revenir à cet horizon indépassable selon l'auteur du catalanisme politique, l'autonomie face à Madrid plutôt que l'indépendance.
Et puis vous nous emmenez à présent en Russie, Camille, où il y a eu une révolution, c'est ça, il y a 100 ans ?
Oui, alors c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Il y a d'abord, en tout cas en Russie et dans les médias, il y a d'abord l'explication à cela, l'explication du calendrier quand le monde entier célèbre la révolution russe à partir du 25 octobre dans le calendrier grégorien moderne. Les Russes, eux, marqueront plutôt la date du 7 novembre dans l'ancien calendrier. Mais il n'empêche, le 7 novembre, il n'y aura bien que le parti communiste russe pour organiser des festivals. C'est ce que nous explique le journal Vestnik Kavkaza. Le président Poutine, lui, se gardera bien de participer à quelques commémorations que ce soit. À Londres, The Independent s'interroge sur cette volonté de faire table rase du souvenir bolchevique, alors que partout ailleurs dans le monde, octobre 1917 est considéré comme un tournant majeur de l'histoire, le début des grands bouleversements du XXe siècle naissant. Mais voilà, pour Vladimir Poutine, nous explique le journal britannique, célébrer la révolution, c'est vanter le changement, une forme de disruption violente, un renversement de l'État en place, c'est pas franchement, vous l'aurez compris, ce que Poutine veut encourager à 6 mois d'une élection présidentielle. La révolution plus ou moins portée de l'étranger, c'est en fait la hantise numéro 1 de l'homme du Kremlin depuis les révolutions colorées qui ont eu lieu il y a une dizaine d'années en Ukraine, en Géorgie et au Kirghizistan, et puis les révolutions arabes également. On pense bien sûr à la Syrie. Sur le site d'Info Eurasianet qui dédie une section spéciale au centenaire d'octobre 17, le chercheur Chris Miller évoque lui une autre cause à cette réticence. Commémorer 1917 pour Poutine, ce serait aussi devoir condamner in fine le bilan de l'expérience totalitaire soviétique. Bilan qui est toujours loin d'être négatif selon une grande partie de la population russe, celle qui a connu l'URSS et qui préfère se souvenir en la regrettant de la stabilité économique perdue, blâmant au passage les dirigeants russes d'après 1991 qui n'ont jamais réussi à restaurer cette stabilité.
Et puis enfin Camille, dans la Russie d'aujourd'hui, des journalistes sont prêts à s'armer pour défendre leur liberté d'expression.
Et pour défendre leur vie, tout simplement. Sur le site d'info de la société Kalachnikov, oui, ça existe, on trouve cette annonce très opportuniste postée hier. Une réduction de 10% pour tout journaliste qui voudrait faire l'acquisition d'un modèle de pistolet d'autodéfense, une arme non létale, nous expliquons, qui tire des balles en caoutchouc. Voilà une réponse cynique, comme on les aime en Russie, au propos hier de Dmitri Muratov, le rédacteur en chef du journal d'opposition Novaya Gazeta. Il déclarait vouloir entraîner et armer ses journalistes, puisque l'État russe ne les défend pas et que la justice ne condamne jamais leurs agresseurs. Et ça fait suite également à l'agression au couteau lundi d'une collègue de la radio indépendante Echo Moskvi. 4 jours plus tard, Tatiana Fulgenauer se trouve toujours dans le coma, nous précise Russia Today.
Merci beaucoup Camille Magnard, on retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture.